Cette Bible est inspirée de Dieu? Est-ce que vous croyez que les paroles qui sont contenues dans ce livre peuvent changer votre vie? Amen. Est-ce que vous croyez vraiment que si vous écoutez et si vous recevez, si vous mettez le message en pratique ce matin, que vous serez transformé? Oh, je suis content qu'il y ait 5 entre vous. J'ai posé une bonne question. Est-ce que vous êtes convaincu que si vous écoutez le message de la parole qui est au sein du Saint-Esprit ce matin, si vous écoutez, si vous recevez et si vous mettez ce message en pratique, est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes convaincu que votre vie serait différente, changée, transformée? Amen! Ça, c'est mieux! OK, on va faire notre déclaration qu'on aime faire. Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à la prendre entre vos mains. Si vous n'avez pas de Bible, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte. Prenez ça, parce que tous les versets qu'on va lire ce matin sont là-dessus. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous savez, j'avais vraiment à cœur de continuer cette semaine une série qu'on a commencée il y a déjà 5 semaines. On a eu plusieurs messages sur le sujet. La semaine passée, on a eu un invité spécial, mais on parle de comment être bien dans sa peau. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bien dans leur peau, ils veulent être heureux dans la vie? Est-ce que quelques-uns n'ont pas moins? Vois-tu, ça c'est vraiment, c'est normal, c'est notre désir. En fait, on parle de comment avoir la paix dans votre être entier, la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Là où on peut dire que rien n'est brisé, il n'y a rien qui manque dans ma vie. Et on veut cela, pas juste à un niveau, mais à tous les niveaux, pas dans une dimension de la vie, mais dans toutes les dimensions de la vie. En fait, notre texte clé, c'était 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix, et n'oubliez pas que l'apôtre Paul était en hébreu des hébreux, n'est-ce pas? Et quand il parlait de la paix, je suis sûr et certain qu'il pensait au shalom de Dieu. Que le Dieu de shalom vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Tout le monde dit l'esprit, l'âme et le corps. On va dire ceci, je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Vois-tu, vous êtes créé à l'image de Dieu. Dieu est un. Il y a un seul Dieu, mais Dieu se manifeste en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il y a juste un de vous, mais vous êtes une personne sur 3 dimensions, esprit, âme et corps. Votre esprit, c'est le vrai vous, c'est votre fort intérieur. Votre âme, c'est votre intelligence, votre volonté et vos émotions. Et votre corps, on sait tous c'est quoi notre corps, n'est-ce pas? C'est ça qui est visible, c'est ça qu'on peut toucher et ressentir. Mais aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous êtes en forme spirituellement? Pas juste physiquement, on ne parle pas aujourd'hui du corps. Hein? Ça, c'est une chose. On ne parle pas non plus forcément de l'âme, de vos émotions, de votre volonté, mais on parle vraiment de votre esprit. On vous pose la question, je vous pose la question, et je vous invite à vous examiner vous-même et pour répondre à la question, est-ce que vous êtes en forme spirituellement? C'est-à-dire, est-ce que votre esprit est en forme? Une bonne question, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit? La volonté de Dieu, c'est qu'un homme ou une femme de Dieu qui est née de nouveau, qui est chrétien. Et vous savez, être chrétien, ce n'est pas une personne qui va à l'église, mais c'est une personne qui a reçu Jésus comme sauveur et comme Seigneur et qui est devenue une nouvelle création. En fait, dans le grec, ça signifie une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Quand je viens à Jésus, ce n'est pas juste une idée que je vais accepter une nouvelle doctrine dans ma vie, une nouvelle façon de vivre. Je ne vais pas essayer de m'adapter à un autre code de conduite, mais j'accepte Jésus qui vient dans mon cœur et qui fait de moi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis né de nouveau. Amen. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Et c'est pourquoi vous êtes capable de dire les genres de choses comme l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 7. Bien intéressant, n'est-ce pas? Il a exhorté les Corinthiens de accepter les apôtres. Il a dit, nous n'avons fait tort à personne. Paul qui dit, je n'ai fait tort à personne. Comment est-ce qu'un homme qui a tué les chrétiens, qui a ravagé l'Église, qui a mis les chrétiens en prison, comment est-ce qu'il peut dire « j'ai fait tort à personne » Les gens auraient pu dire « menteur, Paul, tu mentis, tu ne dis pas la vérité ». Mais Paul disait la vérité. Pourquoi? Parce que son vieil homme, l'homme qu'il était, n'existait plus. Parce que ceux qu'il était avant étaient crucifiés avec Christ. Il a dit en Galates 2:20 « j'ai été crucifié avec Jésus, mais ce n'est plus moi qui vis ». Hein? J'ai été crucifié avec Christ, pourtant je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux que vous saisissiez, l'Esprit veut que vous saisissiez aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de dire. Quand vous acceptez Jésus, vous êtes devenu une nouvelle création. C'est pourquoi le diable ne peut pas vous pointer le doigt en disant, regarde, tu es culpable, regarde, qu'est-ce que tu as fait. Non, tu es justifié, juste comme si tu n'as rien fait. Amen. Justifié en Jésus-Christ. Tout le monde dit, je suis la justice de Dieu. Ouh! Mon esprit est né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Je ne vis plus sous la culpabilité, la condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Esprit Saint habite en moi et mon esprit est né de nouveau et j'ai le fruit de l'Esprit dans mon esprit. Amen? Pourtant, même si vous êtes né de nouveau, vous êtes né comme un bébé. Et savez-vous que vous pouvez avoir toutes les caractéristiques de Jésus dans votre esprit sans que ces caractéristiques soient développées? Vous avez en vous la perfection de l'esprit dans votre esprit, mais cet esprit peut rester bébé. Et si vous restez bébé, vous ne serez pas en forme. Si vous restez mal nourri, vous ne serez pas en forme non plus. Amen? Donc, la question que je vous pose, même si vous êtes né de nouveau, premièrement, si vous n'êtes pas né de nouveau, on peut régler ça aujourd'hui. Vous pouvez tout simplement ouvrir votre cœur et accepter Jésus comme Seigneur et Maître, n'est-ce pas? Et vous aussi, vous pouvez passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Mais si vous êtes déjà en Jésus, combien de vous avez déjà reçu Jésus et vous n'avez aucun doute que vous êtes né de nouveau? Mais est-ce que vous êtes en forme spirituellement? C'est-à-dire que, est-ce que vous vous laissez dominer par votre homme intérieur, ou est-ce que vous vous laissez dominer par votre corps ou par vos émotions? Est-ce que votre esprit, votre homme intérieur, est-ce qu'il est plus fort, est-ce qu'il a plus d'autorité ou plus d'influence dans votre être que les deux autres parties? Est-ce que vous êtes, comme on a parlé l'autre jour, est-ce que vous êtes un homme spirituel? Est-ce que vous êtes un homme naturel ou est-ce que vous êtes un homme charnel? Est-ce que vous êtes une personne qui est contrôlée par l'esprit? Est-ce que votre esprit est en forme? Proverbe 4, 20 dit ceci. Regardons dans votre Bible ou ici dans vos notes, Proverbe 4, 20. C'est quelque chose de bien intéressant. Proverbe 4, 20 dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Tout le monde dit « oreille ». Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, tu m'en dis les yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, tu m'en dis mon cœur. Donc on voit trois choses, l'oreille, les yeux, le cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Donc ici, on a une petite recette pour la santé spirituelle aussi bien que la santé naturelle et physique. Mais je veux juste souligner qu'il y a trois éléments que dans ce passage, on voit que Dieu parle des oreilles, Dieu parle des yeux et Dieu parle du cœur. On dit oreilles, les yeux, le cœur. Et on va voir ce matin que c'est un thème qu'on voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, que Dieu parle du cœur, il parle des oreilles et il parle des yeux. Et ce matin, je ne veux pas que vous pensiez à vos oreilles naturelles. Je ne veux pas que vous pensiez à vos yeux naturels ou à votre cœur qui est un muscle dans votre corps qui fait pomper le sang. Parce que qu'est-ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous êtes un esprit. Le vrai vous, c'est un esprit. Votre esprit est aussi réel que votre corps. Amen? Et savez-vous que vous, le vrai vous, l'esprit, vous avez des yeux, vous avez les oreilles, vous avez même une bouche, vous êtes capable de l'esprit. Dieu est un esprit, n'est-ce pas? La Bible dit, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, mais ses oreilles sont attentives à nos prières. Ses yeux sont sur les justes. Sa bouche parle. Dieu a un cœur, il a les oreilles, il a les yeux. Et je veux que vous compreniez, quand on parle d'un esprit, on ne parle pas d'un petit nuage qui flotte dans l'air. On parle d'une personne, le vrai vous. Vous êtes esprit. Comment dire, je suis un esprit? J'ai les yeux spirituels. J'ai les oreilles spirituelles. J'ai un cœur. Amen. Et c'est ça, vous êtes un esprit enrobé dans la chair. Et en fait, tout ce que vous faites dans votre corps, c'est animé par votre esprit qui habite dans ce corps, n'est-ce pas? Et je pense que tellement des fois, nous en tant que chrétiens, on pense naturel, on pense physique, on pense aux cinq sens, ce que je peux sentir, ce que je peux entendre, ce que je peux voir, ce que je peux goûter, ce que je peux toucher. On pense aux cinq sens naturels. Moi, je suis là pour vous dire que vous avez cinq sens spirituels aussi. Il y a des choses que vous pouvez goûter dans l'esprit. Il y a des choses que vous pouvez entendre dans l'esprit, voir dans l'esprit. Rendu au ciel, est-ce que vous êtes convaincu que nous allons voir les choses, être capable de toucher les choses? Vous savez, Adam et Ève, je suis convaincu que Adam et Ève, avant la chute, ils étaient plus au diapason, plus conscients de leurs cinq sens spirituels que de leurs cinq sens naturels. Amen? Je veux que vous saisissiez cela, parce que si vous ne saisissez pas le message aujourd'hui, vous allez avoir de la difficulté à vivre dans la victoire. Hein? Parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont dominés par leur corps physique. Qu'est-ce qu'ils voient avec les yeux naturels? Qu'est-ce qu'ils entendent avec les oreilles naturelles? C'est ça qui prime dans leur vie. Et c'est pas comme ça qu'on est supposé de vivre. On est supposé de vivre comme des êtres spirituels. Amen? Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui de faire un petit examen. Comme on va aller au médecin faire un examen et ils vont tester les yeux, ils vont tester les oreilles, vont tester le cœur, ils vont voir si tout va bien, si tout est en forme. Aujourd'hui, je vous invite, avant d'aller plus loin, de commencer à sonder votre être et de voir, de faire un examen de vos yeux, mais pas vos yeux naturels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire cette feuille de là où vous êtes assis? Non. On ne parle pas de votre capacité de voir dans le naturel, mais vous, dans l'esprit, examinez vos yeux. Est-ce que vous êtes capable de voir les choses dans l'esprit? Et je ne parle pas forcément des manifestations du discernement des esprits, je ne parle pas des choses bizarroïdes, mais je parle de notre capacité, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Donc, laissez-moi vous poser la question. Pour vous, c'est quoi qui est plus réel? Les choses que tu peux voir avec les yeux naturels ou les promesses que Dieu vous a faites que vous ne pouvez pas voir avec les yeux? C'est quoi qui prime? C'est quoi qui a le plus d'autorité dans votre vie? Ce que vous voyez avec les yeux ou ce que vous croyez dans le cœur? Est-ce que vous êtes capable de voir, comme la Bible dit en Hébreux chapitre 11, Moïse était capable de mépriser toute la souffrance de son temps, de cette époque, ici sur la terre, et il était capable de choisir même de souffrir avec les enfants de Dieu. Au lieu de jouir du plaisir du péché pour une saison, il a choisi même de souffrir ici sur la terre afin de gagner et de remporter le prix céleste, n'est-ce pas? Mais comment? Comment est-ce qu'il a fait cela? Parce qu'il persévérait comme voyant celui qui est invisible. C'est ça que la Bible dit à propos de Moïse. Moïse, pourquoi est-ce qu'il était capable de quitter la maison de Pharaon? Est-ce que vous savez que Moïse, il vivait avec Pharaon? Comme vous avez vu le film Le Prince de l'Égypte, n'est-ce pas? Il avait tout. Et Égypte, à l'époque, c'était le pays le plus riche, le plus puissant sur la planète Terre. Et lui, il avait le privilège de jouir de toutes les richesses, toute l'éducation, tous les pouvoirs de l'Égypte. Mais il a dit, non, je vais rejeter tout cela, les choses que je peux voir, toucher, sentir et expérimenter avec mes cinq sens physiques. Je vais rejeter tout cela parce que je vois quelque chose de plus grand. Je vois une ville céleste. Je vois une récompense céleste. Je vois vraiment que Dieu a une destinée pour moi, mais pas juste pour moi, mais pour son peuple. On n'est pas appelé à être esclave, on est appelé à être les fils de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce matin? Même chose pour vous. Alors, Moïse était capable de persévérer parce qu'il voyait celui qui était invisible. Comment est-ce qu'il le voyait? Hein? Comment est-ce que nous avons besoin de voir ces choses? Avec les yeux de notre cœur, avec les yeux de notre esprit. Amen? Quand ça vient aux choses pratiques, hein? On sait que souvent on est dirigé par qu'est-ce qu'on voit. Quelqu'un qui est malade, il voit la maladie, il voit les symptômes de la maladie dans son corps. Pourtant, la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Est-ce que vous êtes capable, avec les yeux de l'esprit, de te voir guéri avant de voir cela manifester dans la chair? Vois-tu, il faut, ça c'est le genre de choses qu'on a besoin d'apprendre, de voir et de comprendre que les choses qui sont invisibles sont plus réelles, plus permanentes que les choses naturelles que je vois avec mes yeux. Nous marchons par la foi, non par la vue naturelle. Alléluia! Donc, posez-vous la question. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui sont aveugles. Et même 2 Pierre chapitre 1 dit que les gens en qui ces choses ne sont pas, en parlant de la nature divine, en parlant du fruit de l'esprit, le caractère de Dieu, la Bible dit que les personnes en qui ces choses ne sont pas sont aveugles. Ils ne voient pas loin. Il y a beaucoup de personnes dans l'Église aujourd'hui, je parle de l'Église universelle de Jésus-Christ, il y a beaucoup qui ne voient pas les choses de l'Esprit, ils ne voient que les choses naturelles, et ils sont dominés et contrôlés par les choses naturelles. Wow, c'est silencieux dans l'Église aujourd'hui. Mais le message est de Dieu ce matin. On a besoin, le Seigneur veut qu'on voit. Il veut qu'on soit capable d'être influencé par le domaine de l'esprit plus qu'on est influencé par le domaine du naturel. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Examinez vos yeux, puis examinez vos oreilles. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Vois-tu, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez entendre la voix de Jésus. Pas d'une façon audible, forcément, ça peut arriver, mais laisse-moi vous dire, ça fait longtemps que je suis chrétien. Quoi donc? 28 ans. Je suis né de nouveau depuis 28 ans maintenant et j'ai jamais dans 28 ans entendu une voix audible. Jamais. J'ai entendu la voix de l'Esprit et j'entends l'Esprit Saint me parler sur une base régulière. Mais c'est-à-dire que des fois, le Seigneur va ouvrir vos oreilles naturelles pour pouvoir entendre sa voix d'une façon audible. Mais est-ce que je peux vous dire une chose? Si vous êtes vraiment spirituel et en forme spirituellement, le Seigneur n'aura pas besoin d'ouvrir vos oreilles naturelles pour entendre sa voix. Amen. C'est souvent, on voit, mais Seigneur, dans l'Ancien Testament, tu faisais des miracles. Les gens voyaient avec leurs yeux les choses. Aujourd'hui, il a moins... Est-ce qu'il fait encore des choses comme ça? Oui, et il veut en faire davantage, mais surtout pour les non-croyants. Amen. Nous, il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, les personnes n'étaient pas nées de nouveau. Leur esprit n'était pas né de nouveau. Amen. Nous, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes nés de nouveau. On ne devrait pas avoir besoin de voir les choses ou d'entendre les choses avec le physique. On devrait être capable de voir les choses dans l'esprit et entendre les choses dans l'esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est pourquoi Jésus a dit en Apocalypse 2, 29, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Et on a besoin de développer les oreilles spirituelles pour qu'on soit capable d'entendre qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est-à-dire à moi et c'est-à-dire à nous aujourd'hui. Il faut voir avec l'Esprit, il faut entendre avec l'Esprit. Et puis il dit aussi, on va examiner notre cœur. Examinez vos yeux, examinez vos oreilles, examinez votre cœur. Et en Pierre, chapitre 3, dit quelque chose de bien intéressant. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Intérieure est cachée dans le cœur. Et il continue en disant la pureté incorruptible. Vous savez, vous avez une pureté incorruptible qui réside dans votre esprit, dans votre cœur. Et il y a des gens qui ont de la difficulté à croire cela, mais si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà une semence incorruptible dans votre esprit. Vous avez la perfection qui n'est peut-être pas développée, mais vous avez la capacité de développer cette perfection dans votre esprit. Amen? Et c'est ça que la Bible dit ici. Hein? Intérieur caché dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est dans grand prix devant Dieu. Amen. Tout le monde dit encore, je suis un esprit. Mon esprit est né de nouveau. J'ai la nature divine en moi. Amen. Examinez votre cœur. Est-ce que votre cœur est développé? Est-ce qu'il est fort? Laissez-moi vous dire que quand Arnold Schwarzenegger est venu au monde, quand il avait 2 semaines, il avait autant de muscles qu'il a aujourd'hui. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le nombre de muscles dans son corps n'ont pas augmenté. Mais c'est en grandissant, avec la croissance. Plus il grandissait et plus il travaillait les muscles, plus les muscles sont devenus forts. Amen? Même nombre de muscles. À 2 semaines, il avait le même nombre, il avait le potentiel d'être un homme très fort, mais il n'était pas un homme très fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes venu dans le monde, vous aviez le potentiel d'avoir un esprit fort. Mais si vous restez bébé, vous n'êtes pas forcément un esprit fort. Il n'y a pas d'imperfection. OK? Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de problème dans votre esprit, à moins que votre esprit ne soit pas développé. Et pour développer, il faut faire quoi? Il faut manger, il faut faire des exercices, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être en forme spirituellement? Amen! Alléluia! Donc, on va continuer. En fait, en parlant du cœur, Hébreux chapitre 8, 10 dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. » Et dans le Nouveau Testament, quand on voit le mot « cœur », des fois, souvent, ça parle de l'esprit. Mais il y a aussi des fois, il faut lire le contexte, des fois, ça fait référence à l'ensemble de l'esprit et l'âme. Des fois. Mais là, on voit que ici, ça parle, le cœur, c'est l'esprit de l'homme, c'est l'homme intérieur. Et vous savez que votre esprit et votre âme sont tellement proches que c'est seulement la parole de Dieu qui peut diviser et faire la distinction entre les deux souvent. Amen. Selon Hébreux chapitre 4. Lisez ça, et Hébreux 4, 12, tu peux lire ça plus tard à la maison. Mais regardez bien, des choses bien importantes. Matthieu 13, Jésus a dit ceci. Et on va voir encore ce thème du cœur, des oreilles, des yeux que Jésus a mentionné. Il a dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Et vous savez que quand on chantait aujourd'hui, il y avait un chant qu'on a chanté aujourd'hui. Et je trouvais ça bien parce qu'il y avait un chant qui parlait des oreilles, des yeux et du cœur. J'ai dit, hey, wow, ça va de pair avec le message aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais Jésus, il a parlé de ça aussi. Il a dit, ce peuple, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Tout le monde dit le cœur. Ils ont endurci leurs oreilles. Tout le monde dit leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Tout le monde dit leurs yeux. Pourquoi? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent pas de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a des gens qui veulent être guéris, qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour recevoir tout ce que le Seigneur veut vous accorder? Il faut voir clair, entendre avec clarté, et il faut avoir un cœur qui est en santé aussi. Amen? Regardons un autre verset qui est là, 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Mais comme il était écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Tout le monde dit l'œil. Que l'oreille n'a pas entendu, tout le monde dit l'oreille. Et qui ne sont pas montées au cœur, tout le monde dit cœur, de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Combien de personnes nous avons entendu ce verset? L'œil n'a pas vu. L'oreille n'a pas entendu. C'est pas entré dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé. Et on donne l'impression que c'est un grand mystère qu'on ne saura jamais avant d'aller au ciel. Mais je ne sais pas pourquoi ils arrêtent là, ils ne lisent pas le restant du verset, vous? Qui dit ceci, Dieu nous les a révélés. Est-ce qu'on a un professeur de français ici aujourd'hui? Ou quelqu'un qui connaît bien le français, quelqu'un qui peut me dire, quand la Bible dit, Dieu nous les a révélés, c'est quel temps? Est-ce que c'est passé, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chose que Dieu va nous révéler, c'est une chose qu'il nous a déjà révélée. Amen? Dieu, il nous a déjà révélé ces choses, en fait, par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Et ce que je veux que vous voyez, c'est que dans l'Esprit, le Seigneur nous a déjà donné une révélation. Il y a des choses que nos oreilles et nos yeux spirituels sont supposés de capter déjà, maintenant, aujourd'hui. Il y a des choses qui sont supposées d'entrer dans notre cœur aujourd'hui. Et que si on ne voit pas, si on n'entend pas, si on ne laisse pas entrer ces choses, on ne va pas fonctionner au maximum de notre potentiel dans la vie. On va juste flotter dans la vie chrétienne sans avoir une direction précise. Sans avoir la puissance dont nous avons besoin et sans porter de fruits que le Seigneur veut qu'on porte. Amen? C'est le temps. Et écoutez, c'est l'Esprit Saint qui le dit, c'est le temps pour l'Église de devenir une Église spirituelle. Et quand je dis une Église spirituelle, je ne veux pas dire une Église « Ouh, je suis dans l'Esprit aujourd'hui. » Une Église spirituelle qui a les deux pieds sur la terre. Amen? Mais qui est quand même branché au ciel, et qui sait quand Dieu parle, et qui voit les choses que Dieu nous montre, et qui a un cœur qui est rempli de la connaissance de son plan et sa volonté. Amen, une église spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé spirituelle? On va terminer avec cela, deuxième page de vos notes. C'est un message pratique aujourd'hui. C'est bon de dire, oui, j'ai besoin de voir clair, j'ai besoin d'entendre clair, j'ai besoin d'avoir un cœur qui est en forme, mais comment? Oui, mais comment? O-M-C. Oui, mais comment? Numéro 1. Demandez à Dieu d'illuminer vos yeux. Savez-vous que si vous allez voir, je pense que c'est à Sylvania, on voit les camions avec le logo de Sylvania, et je pense que c'est marqué en anglais, par exemple, n'est-ce pas? Vision needs light. La vision a besoin de la lumière. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a vu ces camions sur la route? Ils sont stationnés juste là à côté, hein? La vision a besoin de la lumière. Et si vous allez avoir une bonne vision spirituelle, la chose essentielle, c'est la lumière. Amen. Moi, je sais qu'est-ce que c'est de voyager des fois. On fait des longues routes, on va dans les places. Je m'en souviens qu'un dernier on voyageait à temps plein pour le ministère, pour prêcher dans d'autres églises. Souvent, on voyageait la nuit et on arrive fatigué dans une place parce qu'on a conduit toute la nuit, mais tout est noir. Et je m'en souviens des fois, l'impression et qu'est-ce qui se passe dans le cœur quand on se réveille le lendemain et on regarde par la fenêtre de la place où on reste et on dit « Hey, wow! » Je ne savais même pas qu'il y avait une montagne. Je ne savais même pas parce que j'ai conduit pendant des heures et j'ai vu rien sauf la voie devant moi et les lignes sur la route, n'est-ce pas? Et des fois, les lignes se multipliaient parce que on était tellement fatigués. On met la tête par la fenêtre et je ne fais plus ça. Hein? Autrefois, je fais des heures, souvent. Conduire toute la nuit et... on chante, on crie, on fait tout ce qu'on peut pour rester éveillé. Mais à ce moment-là, on voit pas grand-chose. Mais quand la lumière vient, on aperçoit que, waouh, il y a des belles choses ici, ou des fois, c'est pas bon à voir. Hey, c'est laid ici, hein? Mais combien de fois dans la vie chrétienne, on se promène dans la vie, mais on n'a pas la lumière dont nous avons besoin. Et parce qu'on n'a pas la lumière, on ne voit pas toutes les choses que Dieu a préparées pour nous. On ne voit pas toutes les choses que Dieu nous a confiées, toutes les bénédictions, toutes les puissances, toute l'autorité qu'il nous a donnée. On ne voit pas parce que nos yeux sont dans les ténèbres. C'est pourquoi Acte 26, 18, l'apôtre Paul a dit, « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Jésus qui parle à Paul, il dit, voici ta mission dans la vie. Je veux que tu annonces l'évangile afin, pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et ceux qui sont perdus aujourd'hui, ils sont dans les ténèbres, vous êtes d'accord? Les non-croyants sont dans les ténèbres, ils ont besoin de voir. Il faut que les yeux de leur cœur soient ouverts pour recevoir la lumière de l'Évangile, n'est-ce pas vrai? Si notre Évangile est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Jésus-Christ. Le monde a besoin de voir Jésus, mais laissez-moi vous dire que l'Église a besoin de voir Jésus aussi. L'Église a besoin de voir Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il a prié pour les Éphésiens. Éphésiens 1, 16, qui dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Est-ce que Paul priait cela parce qu'il n'avait rien d'autre à faire? Il était ennuyé? Je pense que non. Je crois qu'il a prié cela parce que c'était la volonté de Dieu. Et il savait que si je ne prie pas pour un esprit de sagesse et de révélation, peut-être ils ne vont pas l'avoir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc il a prié cela pour eux, dans sa connaissance, et qu'il fait quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur, ou on peut dire de votre esprit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous, moi, nous avons besoin de la lumière dans notre esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a fait un dépôt. Dieu a fait un dépôt afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que vous êtes au courant de l'espérance qui s'attache à votre appel? Savez-vous que vous avez quelque chose à faire qui est essentiel, indispensable dans le royaume de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui pensent, mais c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas une grande affaire. Ça, c'est faux. Vous avez quelque chose à faire, mais vous avez besoin de la lumière pour voir. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'infini, mais avant ça, quelle est la richesse de son héritage qu'il a réservé pour nous dans les saints. Savez-vous que vous avez une richesse, un héritage riche en Jésus-Christ? En fait, la Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Dieu le Père a donné toutes choses à Jésus. Et Jésus dit, toutes choses sont à moi, mais en fait, toutes choses sont à nous. Donc, un chrétien qui pense, « Oh, j'ai besoin de telle chose, oh, j'ai manque de ceci, je manque cela », c'est parce qu'il est dans les ténèbres, spirituellement. Il n'a pas vu clair. Parce que dès que vous voyez, la lumière est allumée et votre cœur est illuminé, vous allez voir autour de vous que vous avez une richesse inépuisable à votre disposition. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est à vous. On a besoin des fois de réclamer ces choses et de remercier le Seigneur pour ces choses. Mais toutes choses sont à vous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit à travers l'apôtre Paul. Toutes choses sont à vous. Tout le monde dit, toutes choses sont à moi. Pourquoi est-ce qu'on dit, voici la Bible, je suis tout ce qu'elle dit que je suis, je possède tout ce qu'elle dit que je peux posséder. Ça va de pair avec le message. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Hein? L'espérance qui s'attache à ton appel. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Votre héritage en Jésus-Christ. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en nous. Amen. Ces choses, tout va de part. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais si vous êtes dans les ténèbres, si vos yeux spirituels sont aveuglés, vous n'allez pas voir clair. Donc, il y a une chose que vous pouvez faire pour remédier le problème, c'est de prier la même prière pour vous-même. Hein? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et ça continue, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en nous. Amen. Donc, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Vous n'avez pas parce que vous n'avez pas demandé. Demandez quoi? Demande. Prie cette prière. Père, je prie aujourd'hui pour moi-même, aussi bien que pour mes frères. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Et savez-vous quoi? Si vous demandez cela à Dieu, il va le faire. Amen. Jésus a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On a besoin de cette onction, afin de pouvoir voir clair. Amen. Il y a juste un autre truc que je vais vous donner. Un truc, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous savez que marcher dans l'amour donnera libre cours à la révélation de l'Esprit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour voir mieux, pour améliorer votre vision spirituelle? Demandez à Dieu d'abord la révélation. Mais deuxièmement, marchez dans l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et la parole de Dieu dit ceci. Dans vos notes, c'est en Jean 2,10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Tout le monde dit, si j'aime mon frère, je vais demeurer dans la lumière. Et si vous êtes dans la lumière, vous allez voir clair, n'est-ce pas? Vous allez avoir une révélation. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, il y a des choses que je peux faire. J'aimerais donner plus de versets. Qu'est-ce que Jésus a dit? En Jean chapitre 15, je crois. Où il a dit, il a exhorté ses disciples de marcher dans l'amour. Et voici le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il a dit que ceux qui obéissent au commandement, il a dit, le Père et moi, hein, on va aller, on va faire notre demeure chez lui. On va, en fait, on voit ici qu'on va vous révéler toutes les choses. La révélation et la marche de l'amour vont de pair. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous recevez le message ce matin?
Oui.
Oh Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, aide-moi à marcher dans l'amour, parce que si je marche dans l'amour, je marche dans la lumière. Et plus je marche dans la lumière, plus j'aurai la révélation, et je vais voir les choses que Dieu a préparées pour moi, au nom de Jésus. Numéro 2, habituez vos oreilles à la voix de Dieu. Si on ne voit pas assez clair, il faut demander à Dieu d'illuminer nos yeux. Si on n'entend pas assez clair, il faut habituer nos oreilles à la voix de Dieu. Marc 4, 23, 4 et 4 dit ceci. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Or, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera par vous. Mais Jésus a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Pourquoi? Parce que si vous êtes habitué à entendre d'autres voix, ça va porter de la confusion dans votre vie spirituelle. Regardez-moi, juste une minute. Dieu veut que vous soyez conduit par son esprit, rempli de la connaissance de sa volonté. Il ne veut pas que vous soyez dans la confusion. Dieu veut que vous soyez capable de savoir, ça c'est la voix de mon Père. Je sais que mes enfants, ils ont un livre à la maison, et c'est écrit par un chrétien, mais c'est un livre qui parle d'un roi. Et le roi avait une fille qui voulait donner un mariage à quelqu'un. Et donc, je pense qu'il y avait trois chevaliers qui voulaient se marier avec la princesse. Donc, il a dit, bon, on va faire un concours, et voici qu'est-ce qu'on va faire. Vous, les trois chevaliers, vous allez aller à l'autre côté du territoire, et il va falloir que vous passiez à travers les forêts noires, et il n'y a pas beaucoup de lumière, et il va falloir que vous reveniez. Moi, je vais jouer la flûte. OK? Je vais jouer la musique, et il va falloir écouter la musique, suivre la musique, pour vous rendre juste au château, et celui qui arrive en premier, il va se marier avec ma fille. Vous avez le droit de choisir une personne pour vous accompagner. Donc, il y avait les trois chevaliers qui sont partis, et deux sont perdus avec leur partenaire dans la forêt, mais finalement, il y avait un jeune homme, un chevalier qui est arrivé, tout content, tout fier, parce qu'il savait qu'il allait avoir la récompense de se marier avec la princesse. Donc, ça n'a pas pris du temps pour lui. Il a été capable de négocier la forêt, de se rendre au château sans problème. Et puis, le roi a demandé, mais comment? Parce que les autres, il y avait d'autres musiciens dans les forêts qui jouaient toutes sortes de musique, et les autres se laissaient égarer parce qu'ils suivaient la mauvaise note. Ils suivaient le mauvais instrument. Vous comprenez? Et les autres se sont égarés parce qu'il y avait de la confusion. Ils entendaient de la musique qui venait de plusieurs sources, mais ce chevalier-là, il était capable de distinguer entre tous les autres instruments et l'instrument du roi. Il s'est rendu sans problème. Et le roi lui a posé la question, « Comment est-ce que tu as pu te rendre sans être confus? » Il a dit, « C'est parce que j'ai choisi le bon partenaire. » »« C'est qui que tu as choisi? » Il a dit, « Mais moi, j'ai choisi ton fils. » Parce que ton fils connaît. Depuis son enfance, il a entendu la musique que tu joues. Et lui, il reconnaissait tout de suite la musique qui venait de ton instrument. Donc, ton fils m'a amené directement à toi. C'est un bon leçon, n'est-ce pas? Et vois-tu, c'est la même chose. Si nous sommes en Jésus, nous demeurons en Jésus-Christ, nous connaissons Jésus le Fils qui est quoi? La parole. Plus nous connaissons la parole de Dieu, la parole vivante et la parole écrite, plus on va reconnaître la voix de notre Père. Le Fils, la parole va nous amener au Père. La parole nous amène toujours au Père. Amen? Mais il faut que votre vie soit remplie de la parole. Je m'en souviens, un jour, j'ai un bon ami à moi qui est pasteur maintenant en Virginie. Et je travaillais avec lui quand on faisait l'école biblique, on vendait les chaussures ensemble dans un magasin. Mais un jour, ce gars, il sort de la chambre de bain. Et il faut le connaître. Hein? Il sort de la chambre de bain. Il arrête devant moi et il dit, « Tu peux reconnaître la voix de Dieu juste par le contenu de ce qu'il dit. » Et puis, c'est commencé. Hein? Il était dans la chambre de bain en train de méditer. Hein? Gloire à Dieu, c'est le fun de travailler avec les gens comme ça. Hein? Mais ça m'a frappé aussi, c'est vrai. On peut connaître la voix de quelqu'un. Hein? We can know the voice of God by what he says. On peut connaître la voix de Dieu par ce qu'il dit. Amen. Dieu ne va jamais dire une chose qui va contredire sa parole. Donc encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre façon d'entendre dans l'esprit? Premièrement, il faut connaître la parole de Dieu. En Jean 4, 1 dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ La parole venue en chair est de Dieu. Donc, on a besoin de prendre le temps, oui, d'écouter. Mais des fois, les gens disent, le problème, c'est que vous ne prenez pas le temps d'écouter. Des fois, c'est vrai. On a besoin de prendre le temps, des fois, de s'asseoir ou de juste bloquer toutes les autres distractions de notre vie et de prier et d'écouter dans notre cœur pour entendre la voix de Dieu. Mais on ne veut pas juste ouvrir notre cœur à n'importe quelle voix, à n'importe quel message. Il faut absolument être enraciné dans la parole de Dieu. Comme ça, on va reconnaître la voix de Dieu quand il parle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Numéro 3. On va demander à Dieu d'illuminer nos yeux. On va habituer nos oreilles à la voix de Dieu. Et numéro 3, on va garder notre cœur en forme avec la bonne nourriture et les exercices. Prenez le temps, demandez à Dieu d'illuminer vos yeux. Habituez votre oreille à la voix de Dieu en connaissant sa parole. Mais puis, si vous voulez pas juste que vos yeux soient en forme, pas juste que vos oreilles soient en santé, mais que votre cœur soit en pleine forme pour le Seigneur, on parle de votre esprit. Il faut bien nourrir votre esprit avec la parole et avec la prière, mais aussi, il faut faire des exercices. Combien de vous, vous savez que si on ne fait pas des exercices, notre cœur ne va pas rester en santé aussi longtemps qu'il devrait. N'est-ce pas vrai? Notre cœur naturel. Regardez bien, Luc 8, 15 dit ceci, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête. On dit un cœur honnête. Un cœur honnête et bon la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et moi, quand on parle de faire les exercices pour le cœur spirituellement, je pense qu'il y a quatre choses que je veux souligner aujourd'hui. Premièrement, c'est la méditation. Plus on va méditer la parole de Dieu. Comme David a dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. On a besoin de serrer la parole dans notre cœur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez besoin, votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu sur une base régulière pour être en forme. Il faut méditer la parole. Et quand on médite, c'est pas juste lire, c'est lire et dire à la fois. De même murmurer la parole de Dieu. Comme Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Puis une autre chose qu'on peut faire pour fortifier notre cœur, c'est d'obéir. L'obéissance fortifie le cœur. Dans vos notes, j'ai mis le verset ici, en Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte, tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Il y a quelque chose qui se passe quand je obéis à Dieu. Quand mon cœur me donne un message, quand mon cœur me dirige à faire un geste ou à prendre un pas, et j'écoute mon cœur, et je fais ce que mon cœur me demande de faire, mon cœur devient plus fort. Amen? La désobéissance va faire le contraire, mais l'obéissance fortifie l'homme intérieur. Amen? Tout le monde dit l'obéissance fortifie l'homme intérieur. Une autre chose qu'on peut faire pour faire des exercices pour le cœur, c'est de chanter et de prier. Jude 20 dit qu'on peut s'édifier sur notre très sainte foi en priant dans l'esprit. Vous savez que la Bible dit que celui qui prie en langue, c'est l'esprit qui prie, mais l'intelligence demeure stérile. Il y a des gens qui posent la question, qu'est-ce que ça donne de prier en notre langue? Ça donne beaucoup. Parce que de un, tu pries les mystères à Dieu. Tu pries les prières qui sont selon la volonté parfaite de Dieu. Mais de deux, quand tu pries en langue, c'est ton esprit. Tout le monde dit, je suis un esprit. C'est pas ton âme qui prie. C'est pas ton corps seulement qui prie, mais ça vient de ton esprit, ton âme intérieur. Et c'est comme un exercice qui va fortifier les muscles spirituels de ton être intérieur. Donc, plus je prie en langue, plus je suis fortifié, plus je deviens enfant. Amen. Même si votre tête, vos émotions restent stériles et c'est sec et vous n'avez aucune émotion, pas de problème si vous n'avez pas d'émotion. Vos émotions font partie de votre âme et non pas de votre esprit. Amen. Donc, mais on peut chanter et on peut prier. Prier avec l'intelligence, mais aussi prier dans l'esprit. En fait, regardez bien, Éphésiens 5, 19 dit, entretenez-vous. On a besoin de faire un entretien de notre esprit, n'est-ce pas? Comme on va entretenir une auto, il faut entretenir notre esprit aussi, n'est-ce pas? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Quand vous chantez et quand vous célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, c'est un exercice spirituel et votre esprit devient de plus en plus fort. Et si votre esprit est fort, votre esprit va être capable de dominer votre corps, de dominer vos émotions, au lieu d'avoir le contraire. Puis une autre chose qu'on peut faire pour fortifier notre cœur spirituel, c'est de donner. Un exercice. Vous savez, plus on donne, plus notre cœur est fortifié. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Intéressant, n'est-ce pas? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a quelque chose là. Quand ton cœur te dit de donner, et tu obéis, et tu donnes ce que ton cœur te dit de donner, ton esprit devient de plus en plus fort. C'est pourquoi les personnes les plus spirituelles sont les gens qui donnent le plus. Je ne dis pas, on ne parle pas juste d'argent ici. On ne parle pas non plus des montants. Tu comprends? Mais ceux qui sont vraiment spirituels donnent comme style de vie. Le cœur dit toujours de donner, car Dieu est un amour, un Dieu d'amour et Dieu donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que Dieu est spirituel? Penses-tu qu'il est en forme spirituellement? Parfaitement, c'est notre modèle. Donc, on voit que quelqu'un qui est en forme spirituellement, c'est une personne qui va donner de son temps. Il va donner de son affection. Il va donner de ses talents. Il va donner de son trésor. Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois le lien entre notre trésor et notre cœur? Donc, ce qu'on fait, si on donne et on donne et on donne, c'est comme on fait de la musculation spirituelle. Plus j'obéis, plus je deviens fort. Plus je chante et plus je prie, plus je deviens fort. Amen? Plus je donne, plus je deviens fort, plus mon cœur spirituel est en forme. Moi, je veux être une personne en forme. Et vous? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Père Céleste. On va juste finir ceci. Car le Seigneur, je crois qu'il a parlé ce matin, l'importance d'avoir les yeux, les oreilles et le cœur qui sont en forme spirituellement. Alléluia. On va se lever debout, on va prier. Merci, Père Céleste. Père, tu es tellement bon. Nous sommes tes enfants. Je sais que le message ce matin, c'est peut-être un peu différent que, par rapport aux autres messages qu'on a eus dans le passé. Encore, c'est des choses spirituelles qui ne sont pas forcément tangible. Les hommes naturels ont de la difficulté à entendre ces genres de messages. Les hommes charnels ont de la difficulté à entendre ces messages aussi. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus, c'est normal que peut-être ce message a passé au-dessus de la tête. C'est comme, de quoi est-ce qu'il parle? Parce que la Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Amen. Si vous êtes une personne qui est née de nouveau, mais qui n'a pas pris le temps dans le passé de développer votre esprit, ça se peut que vous avez maintenant un peu de difficulté à saisir ces choses et de voir. Oui, il y a quelque chose dans ton cœur qui dit, oui, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, mais je ne capte pas. Aujourd'hui, on veut faire le pas nécessaire pour que vous puissiez commencer à saisir comme il faut. Parce qu'il ne faut pas rester charnel. Il ne faut surtout pas rester les hommes naturels. Mais c'est le temps pour nous de devenir les hommes et les femmes spirituelles. pas bizarres, mais vraiment spirituels, qui sont capables de voir les choses invisibles, qui sont capables d'entendre la voix de notre Père, et qui sont capables d'agir avec un cœur pur devant le Seigneur. Oh, merci Père Céleste, au nom de Jésus, avec tous les yeux fermés. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas la conviction ou l'assurance d'avoir donné ma vie à Jésus. Je crois en lui, je crois qu'il est mort pour moi, mais moi, personnellement, je n'ai pas la conviction ni l'assurance que j'ai une place réservée pour moi au ciel. Que si je trouverais la mort aujourd'hui, que j'irai directement au ciel. Je n'ai pas l'assurance à 100%. Avec les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, ça c'est moi, et j'aimerais partir, que tu pries pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Vous avez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste regardez, il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a une personne. Quelqu'un d'autre qui a besoin de recevoir Jésus ce matin? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Moi, je vais demander à ceux et celles qui ont levé la main, on va juste faire une prière. La Bible dit que si on confesse devant les hommes le Seigneur Jésus, il va nous confesser devant le Père. Et j'ai à cœur ce matin juste de demander à ceux, la personne qui a levé la main, et si d'autres personnes qui auraient dû, juste de venir ici, je vais prier pour toi. J'aurais besoin de toi, Belgica. Ton nom, c'est... Il parle juste espagnol, mais tu peux traduire pour lui. On va faire une prière et je vais demander à tout le monde de prier. Tu peux lui dire ce que j'ai dit là. Dis-lui qu'on va faire une prière. Et je veux que tu fasses cette prière de ton cœur. Le Seigneur t'aime. Il veut entrer dans ton cœur et il veut faire de toi une nouvelle création. Mais j'aimerais que tout le monde prie avec moi. Mais donne à Belgica le temps de traduire aussi. Donc, Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus est Seigneur. Je t'accepte comme mon maître. Je veux vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Merci, Père. Je suis sauvé. Je suis une nouvelle création. Je suis sauvé de mes péchés. Et je suis ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu sais, la Bible dit...